Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente, réalisée par Eliane Girard et Frédéric Milano et mise en musique par Muriel Pérez, aujourd'hui à la technique, Jean-Louis Deloncle. La gourmandise ce matin, c'est le livre autobiographique « Traversée en eau claire dans une piscine peinte en noir » de Cookie Muller, égérie de l'underground new-yorkais des années 70 et 80 et actrice fétiche du sulfureux John Waters, qui fut aussi go-go danseuse et critique d'art. Dedans, l'éternelle tête brûlée raconte, dans un style frais, drôle, désinvolte et brutal, des souvenirs dont la plupart tournèrent au fiasco. N'usant d'aucun pathos, elle distille une impétuosité vivifiante qui s'absorbe comme un tonique en cette période débilitante. Notre apothicaire de l'âme passe son enfance en Corse, fréquente une école catholique jusqu'au bac, entre aux arts déco, puis étudie au Central Saint Martin's College of Art and Design, accent tchèque, de Londres. Elle fait ses débuts d'illustratrice dans la publicité et se fait connaître grâce à son blog de bande dessinée intitulé « Ma vie est tout à fait fascinante ». Le magazine Femina lui commande des planches, ce sera la série Joséphine adaptée par la suite au cinéma. L'artiste passe 4 ans à Brooklyn à un moment, mais je ne sais pas vraiment quand, je le dis pour faire la fille au courant, dessine, écrit, s'associe à d'autres comme Sfar ou Boulet et imagine pour une collaboration avec Le Monde, pardon, ce qui va devenir un succès planétaire, n'ayons pas peur des superlatifs, la série de bandes dessinées culottées qui retrace la vie de 30 femmes extraordinaires. Féministe engagée, notre apothicaire a essuyé nombre de critiques sur son travail tout au long de sa scolarité et fut accusée, suite au succès foudroyant de culottée, d'opportunisme. Ses attaques, hélas, familières ont fait d'elle un rock, et je parle d'un rock très chic, car il vit à l'intérieur de la première femme à avoir obtenu la plus prestigieuse récompense de la bande dessinée, le prix Esner, en 2019, soit l'année où notre invité donne son nom à une bibliothèque municipale. Bravo. Ajoutons que l'opiniâtre vient d'adapter Sacrée sorcière de Roald Dahl chez Gallimard et qu'elle continue de réjouir les esprits et donc d'irriter les envieux. Bonjour Pénélope Bagieux.
Bonjour, quelle intro.
Pénélope Bagieux, quel rapport entretenez-vous à la mélancolie ?
Quand elle arrive, j'aime bien l'accepter et même me rouler dedans, quoi. Je trouve qu'il faut vraiment aller au fond, il faut écouter des chansons tristes, il faut vraiment se dire, voilà, c'est ma journée, je pleure dans un coussin, et en fait, il faut l'épuiser, je pense, pour arriver au bout, et puis faire, et puis se sécher la truffe un peu, et repartir. Donc, quand c'est le cas, je me mets dedans comme dans un gros manteau.
Elle vous a jamais effrayé?
Et non, en fait, à partir du moment où j'ai compris qu'elle était cyclique et qu'elle avait une fin, voilà, c'est comme une crise d'éternuement ou un truc comme ça, il faut attendre que ça se termine.
Elle a toujours une fin?
Ouais.
Pénélope Bagieux, il y a quelque chose qui frappe, je l'ai un peu soulevé dans l'introduction, mais quand on lit des articles sur vous, on se rend compte de votre opiniâtreté. Par exemple, vous dites « Toute ma scolarité aux arts déco, on m'a dit que ce que je faisais n'était pas bien. On finit, après coup, par en souffrir de moins en moins longtemps. Cette habitude de l'échec a fait de moi un roc. » Vous dites aussi que pendant longtemps, vous avez eu l'impression que tout n'a été qu'une continuité de demi-échecs et de petites résignations. Tout ça, au lieu de vous écraser, de vous affecter négativement, ça vous a finalement presque donné une sorte d'énergie encore plus, non ?
C'est-à-dire que ça m'a poussé à me demander ce qui était vraiment important. Est-ce que c'était le résultat et le fait qu'on le valide ? Ou est-ce que c'était le processus créatif qui, moi, me rend heureuse ? C'est-à-dire être en train de faire les choses me rend très heureuse et finalement, le résultat, moins. Donc même si on me dit au final, c'est pas dingue ce que t'as fait, je me dis oui, mais moi j'ai passé 4 heures géniales à le dessiner. Donc en fait c'est ça le bon calcul. Et ça fait que du coup c'est moins grave de pas forcément rencontrer le succès après.
Et quand on s'affirme comme ça, on est moins affecté par les critiques au fur et à mesure
Là encore, on se rend compte que c'est cyclique. C'est-à-dire, à la 50e personne qui dit « c'est quand même pas génial », on fait « oui, d'accord, je sais, c'est pas génial ouais. ». Voilà. Et on se dit plus « quoi ? Mais qu'est-ce que je vais devenir alors ?» Donc je pense que plus on vieillit et plus on s'est entendu dire que ce qu'on faisait était pas génial, plus c'est une chanson qui sonne complètement insignifiante.
Bon, alors j'annonce le sommaire des réjouissances aux auditeurs. Dans quelques instants, Pénélope Bagieux, vous allez convoquer Jim Abrahams, Barcelone du sommeil, des miettes sur des draps, Jackie Fleming, Marie Blair, un tigre musical, Madonna et Annie Ernaux. Libation d'œuvres d'art jusqu'à 11h.
Bang, tu m'as touchée. Aux ailes, je suis blessée. Et sans un remords, tu me regardes couler. Dans ce corps à corps, j'esquive les coups et j'exprime très fort mon désaccord.
Pas d'accord, dans Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Pénélope Bagieu.
Je lui ai fait du mal. Topher, s'il te plaît, va-t'en. Je dois réfléchir.
Moi, non. Je suis amoureux comme une foufoute.
Pardon ?
Mon cœur se tire-bouchonne sur mes chevilles comme un vieux slip moite. Depuis toujours, je n'avais qu'une envie, voler, bombarder le monde, faire pisser le sang. Mais tu m'as décollé la rouille des yeux. J'ai besoin de toi, de ton amour.
Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright.
1991, Hot Shots de Jim Abrahams, film parodique culte s'inspirant notamment de Top Gun de Tony Scott. On entendait Charlie Sheen et Valeria Golino, et je vous laisse Pénélope Bagieu remettre en contexte cette scène culte.
C'est Topher déclare son amour à Ramada, et du coup il lui dit qu'il l'aime comme une foufoute, et ensuite il lui chante Only You, et il y a plein de passages de films cultes avec des amoureux. Donc il y a Rocky et Adrienne, il y a Superman et Lois Lane, et tout est drôle.
Qu'est-ce que c'est qu'une foufoute?
Mais on sait pas, on n'a jamais su.
Et mais c'est drôle, je crois que phonétiquement.
Je suis tellement attachée à Hot Shots en VF que je sais même pas ce qu'il dit à l'origine, mais je trouve que cette scène est merveilleuse.
J'ai l'impression qu'il y a plus trop de films
intégralement absurde, mmh. où le seul but est de faire rire, et c'est quand même un film où il fait frire des œufs au plat sur le ventre de Ramada. C'est aussi un film où il dit « j'ai les yeux de mon père » et sort de sa poche une boîte avec réellement les yeux de son père. Tout le monde a tellement ri devant ce film.
Mais oui, moi j'ai... et en plus de ça, il est un peu unique aussi dans le sens où c'était des parodies de films pas vraiment de l'époque, donc... Ça demande vraiment être multi-référence pour rigoler du film, mais et à la fois quand on le voit même à 7 ans, on comprend aucune ref et on rigole quand même, donc il est assez, assez chouette.
Vous aimez l'absurde, Pénélope Bageux, je crois que vous êtes aussi férue de Tex Avery.
Ah bien sûr, ça c'est vraiment ma... C'est tout ce que j'ai mangé enfant. J'avais deux VHS de Tex Avery et je les faisais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup regarder. Et c'était ça que je voulais faire quand je serais grande. Je voulais faire Tex Avery.
Tout simplement.
Métier. Ouais. Donc après, j'ai fait du cinéma d'animation et tout. C'est vraiment, c'est ça mon projet.
Vous aimez aussi Les Chevaliers du Zodiac, le Club Dorothée. Est-ce que vous êtes un être nostalgique?
Alors, c'est assez étonnant parce que parfois j'en parle avec des gens de ma génération et je trouve qu'il y avait effectivement un âge d'or culturel dans les années 86.
Oui,
mais comme tous les vieux. Mais à la fois, je suis pas du tout, pour rien au monde, je voudrais revivre, par exemple, mon adolescence. Je suis absolument pas nostalgique de ça. J'ai vraiment détesté le collège. Et je trouve que ma vie cool a commencé à 20, voire 25 ans. Et puis, en fait, même 30. C'est que je trouve pas du tout que c'était les années heureuses. Pour moi, c'était un enfer, quoi. Mais je trouve que l'environnement était super en termes de musique, de films, de plein de choses comme ça.
C'est vrai, mais bon, je suis un peu biaisée temporellement. Pénélope Bageux, est-ce que vous êtes prête pour une transition admirablement ridicule? Tout à l'heure, dans la scène que vous affectionnez dans Hot Shot, ils se parlent sur une plage, les amoureux. Et dans vos remèdes, il y a également une ville qui comporte une plage. J'ai vraiment ramé pour cette transition. Barcelone vous met bonne humeur. Est-ce que vous savez pourquoi?
Non, je peux pas dire pourquoi, parce que c'est très beau, parce que j'aime Gaudi et que je pense que j'aime l'art catalan en général. Mais il y a un truc magique et je sais que c'est super cliché de dire ça parce que tout le monde aime Barcelone. Vraiment, j'ai jamais rencontré personne me dire je sais pas, sauf qu'elle est pas très belle cette ville. Mais j'aime Barcelone. J'aime aller à Barcelone avec des gens qui y sont jamais allés et les obliger à faire le tour opérateur avec moi. Ouais, ça me fait un truc. Il y a des endroits vraiment qui me font vraiment, je sais pas comment dire, c'est physique. Le palais de la musique catalane à Barcelone, c'est trop de beauté. Vraiment, je vois flou. Au bout d'un moment, ça m'assomme. Et ça m'est arrivé d'avoir vraiment les larmes aux yeux, juste de, je me dis, ah, c'est trop. Comme si on avait trop mangé, trop.
C'est le syndrome de Stendhal, je
Exactement.
Crois, quand il y a trop de beauté.
Moi, j'ai ça dans certaines villes où l'architecture vraiment me fout par terre parce que il y a trop de belles choses. Et globalement, aller voir les palais de Gaudi, les uns après les autres, il y a un moment où j'ai la tête qui tourne. Et le soir, je suis fatiguée. De beauté. Et je suis sûre que Paris me ferait ça si c'était pas ma ville, hein, c'est certain. Mais ouais, Barcelone me fait ça.
Pénélope Bageux, vous avez un partenariat avec les guides Cartoville, je crois. Vous avez
c'est
dessiné Londres, New York.
Londres et New York.
Vous avez d'autres projets de villes?
Non, eux, ils n'en ont pas d'autres. Non.
D'accord, eux n'en ont pas d'autres.
En fait, les villes où les gens vont beaucoup, c'est Londres et New York. Donc je crois que pour des raisons commerciales, ils se focalisent sur Londres et New York.
Moi, je suis faite pour dormir au fil de l'eau qui se défile, et rien ne peut me retenir à part mon sommeil tranquille. Aux herbes rouges de l'été, j'ai mêlé ma chevelure blonde. Elles ne m'ont jamais réveillée de cette course en eau profonde.
Faite pour dormir de Brigitte Bardot, pour introduire ce que vous classez comme une philosophie anti-spline, Pénélope Bageux. Beaucoup de sommeil. Est-ce que vous dormez bien?
Je dors pas mal maintenant parce que j'ai travaillé à bien dormir. C'est-à-dire que comme je me suis rendu compte que toute ma vie était plus simple quand je dormais. Vraiment, le jour où j'ai compris ça, j'ai eu l'impression de voir le cône de lumière tomber du plafond. J'ai enfin fait le lien, le dénominateur commun entre les journées où tout me paraissait possible et les journées où j'avais juste envie de me foutre par la fenêtre et en me disant que j'y arriverais jamais. Et c'était le sommeil. Que bizarrement, quand j'ai dormi 8 heures, c'est magique, tout se passe bien. Donc je me suis dit, il faut faire en sorte que ça se produise souvent. J'ai pas besoin de dormir 12 heures, j'ai pas de problème de sommeil particulier, mais et je suis très admirative des gens qui sont efficaces avec 6 heures de sommeil, mais pas moi. Donc j'ai compris des trucs, il fallait que ça démarre pas trop tard. Moi ça marche pas si je vais me coucher à 2 heures, qu'il fallait, comme on en parlait tout à l'heure un petit peu hors antenne, que j'arrête le café parce que j'avais un vrai problème avec ça. Et voilà, il y a plein de trucs, et que quand je fais en sorte de bien dormir, c'est vraiment automatique, 50% de mes problèmes disparaissent, donc ça vaut quand même le coup.
Oui, vraiment. Ouais. Vous avez pas d'insomnie?
J'en ai eu un peu il y a un an. Enfin, j'en ai eu pas mal, comme tout le monde, je pense. À me dire, mais comment on va vivre comme ça, enfermé, ça va être terrible. Puis maintenant que c'est devenu la norme, et que ça ne m'empêche plus de dormir, je pense que la survie a repris le dessus. Mais non, j'ai pas d'insomnie. Mais ça encore, c'est pas un hasard, c'est que quand je suis dans mon lit et que je sens arriver sur la pointe des pieds, toc, toc, toc. Nous sommes les questions existentielles et les trucs bêtes que t'as dit il y a 2 semaines et les trucs horribles qui t'attendent dans 3 semaines. Je ferme vraiment la porte mentalement très fort en me disant alors non, parce que si là je les laisse entrer, eux, on est parti pour 4 heures en fait. Et si vraiment ça vient pas, on m'avait donné une astuce que j'avais trouvée pas mal pour dormir. C'était de se faire l'alphabet dans sa tête avec, pour chaque lettre, on change de thématique chaque soir, un film qu'on aime ou un groupe qu'on aime, et se dire alors A, les groupes, alors ABBA.
Ah oui, comme le jeu des petits
Beatles. C'est, voilà. Et en fait, en général, moi, à G, je dors. Et on dort bien parce qu'on s'est endormi en brainstormant sur des choses qu'on aime. Quels sont tous les groupes que j'aime, tous les films que j'aime? Et en fait, on dort pas mal quand on s'est endormi en pensant à des choses qu'on aime, plus que par exemple en cherchant des villes. Le but, c'est pas de faire un petit bac, quoi.
Ah oui, moi, parfois, je pars de 999 et je compte à rebours.
Ouais.
Et je me suis jamais endormie à 2.
Non, ça marche bien.
Bon, essayez, chers auditeurs. Pénélope Bageux, puisqu'on parlait de philosophie, puisque l'on avait classé le sommeil dans la philosophie, j'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on aborde une chose que j'ai lue à votre sujet. Vous avez suivi une formation pour devenir prof de yoga et vous avez étudié les sutras.
Ah oui.
En quoi est-ce que ça a été un appui pour vous? Est-ce que vous pouvez dire ce que sont les sutras pour les auditeurs?
Les sutras, c'est les préceptes du yoga. Donc ça, c'est très ancien. Ça a été répété oralement et puis après adapté, traduit comme on a pu. Donc ça permet des interprétations assez libres. Et ce sont en fait plus des clés de vie. Moi, l'analyse que j'en ai faite, c'est que ce sont des clés pour pas être trop une personne horrible. En gros, voilà, c'est l'ambition du truc. Et moi, je trouvais ça super d'avoir quelque chose qui soit spirituel et qui soit une forme de code de vie sans qu'il y ait un dogme d'une religion derrière. C'est la première fois que je lisais ça, donc j'aimais bien l'idée de dire, par exemple, on dit dans les sutras, il y a des trucs, ça pourrait être comme une religion, mais ça l'est pas parce qu'on dit, par exemple, il faut pas voler, voilà. Bon, alors ça, on dit ça aussi dans les 10 commandements, donc on se dit, ok, j'ai compris, il faut pas voler. Sauf que dans les sutras, on dit, il y a pas que voler. Évidemment, quand personne ne vole des portefeuilles, en fait, on parle pas de ça. Parfois, tu voles de l'énergie des gens. Tu leur voles du temps en étant tout le temps en retard. En fait, tu fais chier.
Ah.
Tu voles l'énergie des gens quand t'es dans une relation d'amitié où t'es pas présent pour les gens. Fais pas ça, en fait. C'est du vol que tu fais. Et plein de choses où, à chaque ligne, je me disais, génial, super, j'avais exactement besoin de ça. Et après, bon, c'est imbriqué. En fait, les gens pensent toujours que le yoga, c'est juste faire des postures physiques, mais il y a une très grosse partie qui est ça. Et quand on fait une formation de prof ou de pas prof, mais en tout cas une grosse formation de yoga, on doit écrire beaucoup de, ça m'a rappelé vraiment mes dissertes de philo, quoi. Et il y a plus beaucoup d'occasions dans ma vie, à moi en tout cas, où je suis obligée de prendre 3 heures pour réfléchir à des choses qui soient de l'ordre de la spiritualité ou juste un peu de l'abstrait, et qui soit pas de la liste de courses et j'ai 10 minutes, quoi. Donc c'était de toute façon une super étape de faire ça. Après, il se trouve qu'en plus, techniquement, j'ai aussi le droit d'enseigner le yoga, voilà. Donc une porte de sortie si un jour j'ai changé de métier. Mais c'est le principe d'un petit manuel de vie, on va dire.
On devrait tous les lire pour être des chic types.
Ouais, en fait, c'est pas l'ambition d'être quelqu'un de super, c'est de...
Non mais chic ouais, dans le sens justement quelqu'un d'intègre, de loyal, de droit.
Ouais, et puis d'être un maillon dans la chaîne qu'est une société, qui soit pas un problème pour les autres. C'est enfin faire en sorte d'être une personne plus agréable pour les autres aussi, et pour soi donc par extension.
Revenons Pénélope Bageux à l'endroit où l'on se couche. L'activité qui vous grise, c'est de manger au lit avec votre fiancé. Alors quand même pas des chips, ce serait un peu décadent.
Ouais, bah ça pareil, lâcher prise sur le truc des miettes.
C'est vrai?
Mais ouais,
non mais je ne suis pas prête.
Non mais moi aussi avant j'étais là, alors moi je suis vraiment le genre de personne qui ne supporte pas les miettes dans le lit. En vrai au pire ça va, on pousse les miettes. Enfin, il y a vraiment des choses plus graves dans la vie que d'être épidermiquement gêné par les miettes. Rester au lit pour faire des trucs, c'est vraiment la décadence. C'est vraiment comme si c'était une caverne et que le monde autour n'existait pas. Et avoir le luxe de pouvoir le faire même quand c'est une heure, dans le week-end. Et se dire, viens, la série, on la regarde au lit et on mange au lit et on se lève pas. Ça redonne de la joie pour plusieurs jours, je trouve.
On va découvrir une bande dessinée très amusante grâce à vous, Pénélope Bagieu, dans quelques instants. Parole de scout, Bruno Mars et Silk Sonic chantent pour nous faire patienter. Sonic, Leave the Door Open dans Remède à la Mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Pénélope Bagieu. J'avais promis aux auditeurs une bande dessinée très amusante, bien que son thème soit profond, et je l'ai lu grâce à vous. Il s'agit de l'album Le problème avec les femmes de la dessinatrice britannique Jackie Fleming, paru en 2016. Comment vous décrirez cet album aux auditeurs, Pénélope Bagieu?
Je ne sais pas comment le décrire. Une explication de pourquoi est-ce que les. Une explication du sexisme et de la misogynie, de manière très premier degré. Extrêmement drôle. Et en fait, l'absurdité des arguments fait forcément mouche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mettre de sous-titres et de dire, et vous voyez, c'est pour ça que c'est faux. C'est qu'en fait, c'est tellement idiot que c'est vraiment à pleurer de rire.
Mais par exemple, à un moment, elle énumère les nombreuses façons d'être déchue pour une femme et il y a ne plus être vierge après l'accouchement. Et donc, en fait, ce qui est fou, c'est que elle a fait cet album après avoir vu un documentaire dans lequel on s'extasiait sur les hommes et sans parler des femmes, comme souvent. Et elle a tapé sur Google la phrase, les femmes peuvent-elles être des génies? Et a trouvé des théories, dont celle de Darwin, qui expliquait pourquoi c'était impossible. Donc en fait, elle montre quand même qu'il y en a quelques-unes qui sont pas mal, hein, Marie Curie, Jane Austen, tout ça, mais émaillée de citations incroyablement misogyne de Freud, de Schopenhauer, de Darwin, parce qu'en fait on a empêché les femmes de briller en littérature, en sport, en art, tout en disant que c'est parce qu'elles étaient mauvaises.
Oui, ou parfois parce qu'il y avait une incapacité biologique aussi. Il y a des choses qu'elles ne pouvaient pas faire parce que c'était pas possible pour elles. Vraiment, on faisait des explications de presque de coupes anatomiques du cerveau et d'expliquer voilà pourquoi elles peuvent pas être intelligentes, voilà pourquoi elles peuvent pas être sportives.
Ce qui est amusant, c'est que Jackie Fleming, pour ce projet, elle a justement, comme elle était très agacée par ce qu'elle a lu et de Charles Darwin, elle a fait des recherches sur des femmes exceptionnelles à travers les siècles, et c'est un peu ce que vous avez fait, vous, Pénélope Bagieu, dans Culotté.
Oui, moi, elles sont pas souvent extraordinaires, elles ont...
Ah, elles ont quand même...
Elles ont fait changer des choses autour d'elles, mais pas du tout avec la volonté initiale de...
Oui, de changer le monde.
Ni rien.
Elles voulaient... Mais de changer leur monde.
Elles voulaient régler un truc dans leur vie à elles, et par... capillarité, ça a changé des choses pour d'autres femmes. Voilà.
Est-ce que vous sentez qu'on est en train de changer là, par exemple, là je vais parler évidemment de féminisme, mais vous dites dans une interview, Pénélope Bagieu, j'étais la fifi qui parle de trucs à la con pour les autres filles et j'aurais pu évoquer n'importe quel sujet, c'était au mieux mignon et au pire exaspérant. J'étais obligée de le noter parce que je trouve que ça va justement avec le problème avec les femmes.
C'est difficile de faire oublier son genre quand on écrit, quand on est créatif. Et à la fois, il y a une spécificité dans les sujets qu'on a envie d'aborder, en tout cas dans le regard qu'on porte sur ce dont on parle. Moi, je trouve qu'un personnage féminin pensé par une femme aura jamais la même saveur que... Enfin, l'inverse, justement, que quand il est écrit par un homme, ça se voit tout de suite. Enfin, les mauvais bouquins où l'héroïne a été écrite par un homme, ça saute aux yeux immédiatement. Page 2, en fait, on se dit, ah, ça, c'est un mec qui a écrit ça. Donc, voilà, c'est quand même d'où l'intérêt d'avoir une diversité de voix et de points de vue dans l'écriture et dans la création en général. Et en même temps, on n'a pas envie d'être ramené à ça tout le temps et de dire, ah oui, mais du coup, comme c'est une héroïne, j'imagine que c'est une histoire de... Ouais, ça va pas être mon truc, c'est une histoire de femme. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'au début, moi, quand je faisais de la bande dessinée, comme il peut y avoir de la BD d'aventure, de la BD de science-fiction, enfin des genres, moi, j'étais dans le genre, c'est une fille, en fait. C'est le genre de ce que j'écris, c'est-à-dire que ça conditionne tout ce que j'écris. Et en plus, par extension, ça conditionne aussi mon lectorat. C'est-à-dire que je ne peux être lue que par des filles, le terme est encore plus énervant d'ailleurs que par des femmes, parce que j'en suis une, donc a priori, ce que j'écris ne l'intéresse que mes semblables.
Un journaliste qui vous demandait si vous étiez beaucoup identifiée à des garçons, Pénélope Bagieu, vous avez répondu oui, parce que dans les histoires, c'était eux les cools. On n'avait pas du tout envie d'être une fille. Si une bande d'enfants vivait des aventures, c'était quatre garçons et une fille qui hurle devant des araignées. Mmh. J'ai l'impression que c'est un peu en train de changer en ce moment.
Ah, complètement. Être enfant et ado maintenant, quelle chance en termes de fiction et de personnages proposés par rapport à ce que moi j'avais à leur âge. C'est incroyable. En fait, parce que maintenant, les gens qui écrivent, on a encore une fois, ajouter des nouvelles voix à l'écriture, c'est-à-dire que, voilà, on a un peu changé les points de vue. Et puis aussi, ils sont sur des œufs et ils savent qu'il faut absolument qu'ils oublient pas de mettre des filles cool. Parfois, c'est un peu too much, mais c'est pas grave, il faut passer par une phase comme ça d'exagération du trait. Moi, j'imagine que quand on est un garçon ou une fille aujourd'hui et qu'on regarde un dessin animé à la télé, on a l'embarras du choix. On peut se dire, quel personnage est cool, garçon ou fille, peu importe. On peut voir des gens qui nous ressemblent et se dire « Ah, donc en fait, c'est possible aussi... » Enfin, je sais pas, que ce soit les filles qui soient les aventurières, que ce soit elles les... Par exemple, alors je fais un aparté, mais ça m'a choquée. Dans les choses que moi, je regardais quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite, il y a un film que j'adore, de 1940, qui s'appelle « L'oiseau bleu » avec Shirley Temple, que j'adore, je l'ai vu des milliards de fois. Vraiment, je le connais par cœur. Et en le regardant là, il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte d'un truc que j'avais même pas perçu à l'époque. À un moment, ils vont dans le monde des enfants qui vont bientôt naître. Et donc, il y a plein d'enfants et d'ados, mais qui sont en fait destinés à vivre bientôt. Donc, tous les garçons sont en bleu, toutes les filles sont en rose, évidemment. Mais bon, ça, à la limite... Et à un moment, il y a le coin des enfants qui vont être plus tard des génies et des ingénieurs. Et donc, c'est là où il y a tous les garçons en train de fabriquer des machines. Et ils sont en train de construire les machines de demain, parce que c'est les futurs génies, en fait. Et je me dis... Évidemment que moi j'ai grandi en voyant ça toujours et en me disant et donc il y a des filles dans ce monde magique là, donc il y a une fille qui pleure parce que on va la séparer du garçon qu'elle aime.
Oh non.
Donc vrai drame quand même. Qu'est-ce qui peut lui arriver de pire que ça? Elle va être séparée du mec qu'elle aime. Il y en a une qui pleure parce qu'elle veut pas aller sur Terre parce qu'elle a... enfin bref, elles ont toutes
des problèmes. Ah non, je disais oh non parce que j'étais atterrée que voilà, qu'elle n'invente pas de machine.
C'est
mais...
ça. Ah non, ça elle peut pas inventer une machine, mais
j'ai pas de peine pour elle.
Mais il y a certaines filles qui sont accoudées à regarder les garçons fabriquer des machines et voilà. Et je lui dis, mais moi j'ai grandi là-dedans en fait. J'ai grandi dans l'idée que les génies ça va être des garçons. Et puis, alors je pense pas que ce soit pour ça que je sois passée à côté d'une grande carrière d'ingénieur pour autant. Mais c'est sûr que ça n'aide pas à se projeter quand on n'a jamais vu autre chose que ça.
Les choses bougent et c'est assez réjouissant.
I want you to meet Mary Blair. Mary, this is Julie Reams.
Hello, Julie.
Will you tell her what you're doing here, Mary?
We'd start this way, making a preliminary sketch. Then we'd make a model to scale. And that's what we're doing
here. This is a half-scale model, isn't it, Mary?
One half inch.
One half inch represents a foot. Mm-hmm. So actually, when the thing is really built at Disneyland, those towers will be 60, 70 feet high.
Le documentaire How Mary Blair Changed the Walt Disney Company. Et justement, pendant l'extrait, Pénélope Bageux, c'est amusant puisque, bon, là, elle explique comment elle travaille et on a remarqué que, en fait, le journaliste n'arrêtait pas de lui couper la parole.
Ah oui. Incroyable.
Vous avez choisi de parler des peintures de l'artiste américaine Mary Blair, connue pour son travail au sein des studios Disney, mais aussi pour son œuvre de dessinatrice de livres pour enfants. Comment vous décririez aux auditeurs qui ne la connaissent pas le travail de Mary Blair?
Moi, je trouve qu'elle n'est pas connue pour être l'âme des dessins de Disney. Mais quand on aime quand on connaît bien les Walt Disney de l'époque, en gros, à partir de Allez Merlin l'Enchanteur, les paysages magnifiques dans Alice au Pays des Merveilles, dans Peter Pan, c'est l'œuvre de Mary Blair, en fait. Tout cet univers-là qu'on associe à, c'est très Disney, mais c'est pas du tout très Disney, c'est très Mary Blair. Et c'est elle aussi qui a fait l'attraction Le Monde des Poupées, oui, à la Disneyland, voilà, qui est absolument sublime. En fait, tout cet univers qui est devenu l'univers de Walt Disney, c'est le sien.
It's a small world.
Voilà.
Et elle rêvait d'une carrière de peintre, mais le contexte de la Grande Dépression n'a pas favorisé.
Non. Et bien, en fait, elle a vraiment, quand on commence à se plonger dans son travail et qu'on voit toutes ses recherches, c'est absolument magnifique. C'est vraiment une artiste incroyable. Et surtout, elle a tellement, tellement influencé des générations de dessinateurs derrière. Mais avec un tel effet d'invisibilisation au fur et à mesure que depuis, on pense que c'est copier des gens qui avaient copié Disney. On oublie complètement le haut de cette généalogie qui est vraiment que c'était elle.
On peut voir ses dessins sur Internet et il y aura toutes les références sur le site de l'émission, évidemment. Pénélope Bageux, est-ce que vous êtes prête à rebondir partout et en tous sens?
Oui.
I'm not afraid to
Vous écoutez Remède à la mélancolie sur France Inter et Pénélope Bagieux vient de nous faire entendre un titre de 99, Decepticon du groupe new-yorkais Le Tigre. Impossible d'être triste sur ce morceau.
Impossible. Et ça marche encore 20 ans après.
Alors c'est de l'électroclash convulsif et je ne sais pas ce que ça veut dire mais j'ai trouvé ça joli. Racontez-nous, vous m'en avez parlé hors antenne de ce groupe, de la chanteuse.
Ah oui, en fait elles sont trois. Et la chanteuse, Kathleen Hanna, elle était avant dans un groupe qui s'appelle Bikini Kill. Et elle est hyper... C'est une ancienne punk, un peu Stein Riot Girl, hyper engagée. À une époque où il n'y avait pas de femmes tellement sur la scène rock qui émergeaient. Et puis, elle a toujours été très avant-gardiste. Elle s'entoure de super musiciens. Et j'adore cette femme. Et j'adore ce groupe. J'adore Le Tigre. Et les concerts de Le Tigre, c'était vraiment un truc... incroyable. Bon, il y avait quand même que des meufs, mais c'était... mais c'était super.
Il y a une colère aussi dans cette chanson, mais il y a une colère transformée en énergie contagieuse.
C'est exactement ça. Je trouve sa façon de chanter, c'est qu'on dirait juste que moi, ça m'a toujours fait l'effet de d'une. En plus, elle a une voix hyper aiguë et nasillarde, donc elle a presque une voix d'enfant, mais d'enfant furax, quoi. Moi, j'adore, mais qui danse en même temps qu'elle est énervée. Enfin, il y a un truc très communicatif, je trouve.
Continue de gesticuler en célébrant l'émancipation féminine avec un titre de 1989, Express Yourself de Madonna, qui s'inspire de Respect par Otis Redding. Et je signale d'ailleurs au passage que le clip est réalisé par David Fincher, qui s'inspire lui-même du film Metropolis de Fritz Lang, donc ça vaut le coup d'aller le voir. Ouais. Pourquoi ce choix, Pénélope Bagieux ?
Eh ben pour la même raison, c'est difficile de résister 100% au passage de Express Yourself et de plein de chansons de Madonna d'ailleurs, sans un petit peu quand même bouger les épaules et se dire « Allez, je m'en fous, tout va s'arranger ». Et moi, ça marche toujours bien sur moi. Et cette chanson, elle a été reprise avec plus ou moins de subtilité par Lady Gaga après aussi. Et je trouve qu'elle marche bien, quoi. C'est que j'ai ça aussi avec Like a Prayer de Madonna. C'est que quand ça tombe là-dessus, le hasard de ma musique de ma salle de bain, je suis obligée de faire un clip, quoi. En fait, même si à ce moment-là, j'ai plein de trucs chiants auxquels il faut que je pense et que je suis en retard et tout ça, je me dis, j'ai quand même le temps pour faire un clip avant de partir. Donc, c'est un bon remède à la mélancolie, je trouve.
Faites des clips. Pénélope Bagieux, la musique est importante pour vous, je crois. Vous avez fait un album, California Dreaming, qui est la biographie de la chanteuse Mama Cass, des Mamas and the Papas.
Mm-hmm. Oui, oui, très important. La musique, c'est ma passion numéro un, au-delà de tout.
Vous jouez de la batterie et de la flûte traversière?
Je joue plein de choses mal. Je joue vraiment un petit peu et mal de plein de trucs. Parce que j'ai jamais... parce que heureusement, c'est pas du tout le but. C'est que je peux adorer la musique en m'en fichant complètement d'être bonne ou mauvaise, puisque c'est pas mon métier et je trouve ça très reposant. Mais je serais... Je serais bien plus triste qu'il n'y ait plus de musique, plutôt qu'il n'y ait plus de livres, par exemple. Ça me ferait beaucoup plus de peine.
Ah oui?
Ouais, vraiment, c'est ce que je préfère.
Connaissez-vous DJ Brenda ?
Oui.
Qui est-elle ?
C'est un nom que j'avais pris pour passer des disques dans des soirées années 90, dans mes jeunes années.
Vous n'êtes plus DJ Brenda ?
Pas du tout, mais j'étais déjà pas vraiment DJ. Je sais que c'est une insulte au DJ de dire ça. Moi, j'appuyais sur play et je faisais des playlists. Hein, donc,
et pourquoi Brenda ? Calmos.
Bah parce que c'était les années 90, donc Brenda Walsh, Beverly Hills.
Oui, bien sûr. Évidemment, quelle question. Pénélope Bagieux, vous écoutez de la musique lorsque vous dessinez et vous aimez la musique que vous connaissez bien comme un doudou, dites-vous. Mmh. Par exemple, Queen.
Oui, Queen, tout à fait. Ça m'accompagne depuis que j'ai je pense, 5 ans. Donc, j'ai vraiment appris à parler anglais en lisant les livrets des paroles de Queen. Et... Et avec ma sœur, on faisait des BD des membres de Queen aussi quand on était petite. Donc vraiment, c'est...
Que se passait-il dedans?
Alors, ils habitaient tous dans une maison, tous les quatre, ensemble. Donc, ils avaient leur petite vie, quoi. C'était un peu une sitcom. Mais ils étaient... Alors, évidemment, Freddy était extrêmement extravagant. Il était tout le temps en costume. John Deacon était un peu le rabat-joie qui disait, ouais, il y a trop de bruit, j'essaye de travailler, tout ça. Ils avaient des petites aventures, quoi.
Alors, vos titres fétiches, Pénélope Bagieux, il paraît que c'est Midlife Crisis de Faith No More, Song for the Dead de Queens of the Stone Age et Tiny Dancer d'Elton John.
Bah, wow, énormément d'infos.
Ouais, je vous ai suivi en fait.
C'est vrai, mais tout ça est assez vrai, oui.
Je l'ai dit parce que je voulais en faire profiter les auditeurs.
C'est vrai s'ils ne connaissent pas, si vous connaissez pas Faith No More, voilà.
C'est le deuxième sexe de Simone de Beauvoir qui a changé ma vie à 18 ans. D'un seul coup, j'étais à la fois perdue et heureuse. Heureuse parce que j'avais une sorte de révélation qui peut s'apparenter à celle des mystiques. Toute ma vie passée me semblait à réexaminer et j'avais devant moi une autre vie qui se préparait. Celle d'une femme qui a conscience de tous les problèmes qui s'offre à elle, qui tout ce que j'avais vécu était à réexaminer, et devant moi c'était une image de la liberté qui s'offrait.
Annie Ernaux dans la Grande Librairie en 2016. Votre citation Becky Pénélope Bagieux se trouve dans son récit autobiographique publié en 2016, Mémoire de fille, et je vous laisse le lire.
Oui, c'est très court. Hein. Plus que la réalité de son bonheur, c'est la conscience de la réalité de son bonheur qui ne fait pour moi aucun doute. Celle-là même dont la nécessité figure dans la citation recopiée dans l'agenda rouge. Il n'y a de bonheur réel que celui dont on se rend compte quand on en jouit. Alexandre Dumas, fils.
Ça vous a marqué, ça, Pénélope Bagieux, l'idée que l'essentiel est la conscience du bonheur plus que la réalité du bonheur?
Vraiment, c'est en le lisant, j'ai relu la phrase plusieurs fois et je me suis dit, mais c'était ça alors. Parce que moi, je me disais toujours, dans les moments où ça va pas, où je suis triste, je me rendais pas compte, mais en fait, il y a deux semaines, j'étais quand même vachement heureuse. Tout allait bien. Et pour moi, c'est vraiment comme quand on est enrhumé et qu'on peut pas respirer par le nez et qu'on se dit, c'était quand même vraiment cool quand je pouvais respirer, mais je m'en rendais pas compte. Et en fait, c'est une super gymnastique d'apprendre à se dire dans les moments où tout va bien, hey, tout va bien, c'est génial, je suis trop contente en ce moment. Et même moi, je le verbalise, c'est que je dis, je suis hyper heureuse en ce moment. Et je sais que ça fait complètement baba, new age de dire ça, mais de dire aux gens, en ce moment, je suis super heureuse. Parce qu'en fait, c'est le moment où on le dit, que ça y est, c'est réel. Donc oui, je pense vraiment ça.
Vous vous entraînez à en avoir conscience et à vous le faire remarquer?
C'est-à-dire que se dire, quand, en tout cas, tout va bien, plutôt que de se dire, ça veut dire que ça, c'est un état neutre, rien à déclarer, tout va bien, se dire « Non, c'est quand même vraiment rare, tout va bien, c'est quand même super. » Et surtout ces temps-ci, quand j'ai des moments où soudain je me dis qu'en ce moment, j'ai passé une bonne journée, que c'était cool, que j'ai bien rigolé, que voilà, je dis « Marque-le d'une pierre blanche, dis-toi, en ce moment je suis quand même assez heureuse. » Parce que ça muscle à le remarquer. Ça fait qu'après on est plus capable de le remarquer et de se dire « Je trouve qu'en ce moment ça va bien. » On est très capable de remarquer quand ça va pas. Parce que ça, c'est une sensation physique, parce que ça saute quand même pas mal aux yeux, mais on n'est pas toujours très bon pour se rendre compte quand tout va bien.
Est-ce que, Pénélope Bagieux, l'absence de trouble, qu'on appelle l'ataraxie en philosophie, c'est pour vous justement quelque chose aussi à marquer d'une pierre blanche, ou c'est quand même une petite joie, un petit plaisir que vous remarquez?
L'absence de trouble
J'arrivais à en avoir conscience quand, en fait, il n'y a pas de problème particulier. Vous vous dites, oh, il n'y a pas de problème particulier.
Non, parce que j'en trouve un.
Oui.
En fait, ben non, c'est parce que c'est complètement inconscient. Mais pour moi, il y a toujours un petit problème, il y a toujours un petit caillou dans la chaussure qui fait que ça va pas 100% bien. Sauf qu'en fait, quand on l'analyse, on se rend compte que, enfin moi en tout cas, souvent c'est quand même vraiment pas très très grave, et que à l'échelle de un mois entier, c'est rien du tout, et que probablement qu'en dormant 8 heures en plus, ça disparaîtra. Mais moi, j'ai un naturel assez heureux. Je suis facilement heureuse. Notamment parce que j'ai une joie assez... Enfin, je peux être super heureuse d'avoir passé une journée toute seule à dessiner. Ou, enfin, je sais pas, faire un puzzle me rend hyper heureuse. Le fait que mon bonheur dépende rarement d'autres gens...
Oui, ça, c'est une force rare.
Alors après, c'est peut-être un privilège de personne pas seule de dire ça. Peut-être que je dis ça, mais parce que c'est jamais... Je suis jamais forcée. C'est parce que je savoure de me dire « Oh, j'ai une petite soirée toute seule, ça va être super. » Alors que si ma petite soirée toute seule, c'était tous les soirs pendant un an, peut-être qu'on en reparlerait, mais... J'arrive assez facilement à constater que tout va bien et que c'est super. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors, moi, je crois pas du tout au relativisme, ça pourrait être pire. Il y a des gens qui vivent dans des pays en guerre. Ça n'a jamais consolé personne de relativiser, mais de se dire, relativise par rapport à toi-même. Par exemple, se souvenir de moments où on a été vraiment dans le dur et c'était vraiment l'enfer, et se dire, oh, par rapport à il y a 2 ans, qu'est-ce que ça va mieux? Moi, j'adore me dire ça. Et du coup, ça peut même se faire complètement en dehors du contexte. Typiquement, en ce moment, ça va quand même pas super bien, la vie en général, mais quand au sein d'une journée on se dit aujourd'hui c'était vraiment une super journée, en fait on arrive à faire abstraction de ce qui se passe autour, mais il faut se forcer à le voir, quoi. Et donc j'essaye de faire ça.
Tout à l'heure vous évoquiez justement le fait qu'on pouvait toujours trouver ce qui n'allait pas dans chaque moment. J'ai l'impression qu'on est, en tant qu'être humain, toujours dans cette quête de ne plus avoir aucun problème, mais en fait peut-être qu'il faudrait simplement accepter qu'on en aura toujours et que si on en a plus c'est qu'on est mort.
Ouais.
Non, mais parce qu'en fait, il y en a tout le temps. C'est-à-dire qu'on en résout un, il est remplacé par un autre. Et donc, ça nous condamne à l'insatisfaction éternelle de penser que quand il y en aura plus, ça ira mieux. Ça n'arrive jamais.
Moi, je sais comme ça. Je suis toujours dans accomplissement de tâches. Et me dire, j'ai un chantier en ce moment. J'ai un truc à régler, c'est ça. Il faut absolument que je règle ça. Mais c'est mon moteur aussi, d'être en train de régler des trucs.
Bien sûr, on les règle, mais en sachant que jamais la vie ne sera exempte de problèmes.
Ah oui, alors moi, je le vois comme une progression en escalier.
Oui.
C'est que ils se remplacent pas de manière similaire. Ils ont pas tous la même valeur. C'est que je me dis, ah, j'ai triomphé d'un truc. Maintenant, défi, l'étape suivante. Mais c'est vrai que je pense que je ferai ça jusqu'à ma mort. Ouais.
Mais oui, mais on est dans l'ascension, Pénélope Bagieu.
Ouais, en fait.
On termine sur ça. Merci beaucoup d'être venue dans l'émission.
Bah, merci.
Chez Gallimard, vos derniers ouvrages sont l'intégrale de Culotté, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, ainsi que des versions petit format en folio et Sacrée Sorcière d'après Roald Dahl. Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes sont sur le site de l'émission comme toujours. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez l'humeur aussi gaie qu'un rocamadour rigolard. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.